RKS, S comme sport.
S comme sport.
Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir encore signé avec nous pour cette nouvelle heure d'émission. Alors heure ou pas, on verra. Vous savez, S comme sport, on peut dépasser, on peut faire plus court aussi. Ça dépend de nos invités et de leur projet et de leur emploi du temps. Et là, il est très chargé, l'emploi du temps de notre invité. Il s'appelle Nicolas Plein, il a 28 ans, il nous vient de Saint-Paul-de-Vars. Donc une fois de plus, on fait honneur aux locaux de l'agglomération grenobloise. Il est doctorant, il va nous parler parapente, écologie. Bonsoir à Nico.
Bonsoir Fabien.
Ça va ?
Ouais, très bien et toi ?
Ça va, écoute, on a réussi à savoir, c'est quand même incroyable.
Ouais, c'est parfait.
C'était pas gagné. Donc là, vous l'entendez, il est au téléphone, il n'est pas avec moi en studio, parce que Nicolas, il a un emploi du temps extrêmement chargé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce documentaire que vous faites, cette série de documentaires, Il faut sauver les Alpes ?
Ouais, tout à fait. Alors, Il faut sauver les Alpes, c'est une collection de documentaires qu'on a créée avec La Jolie Prod, et le réalisateur des émissions C'est pas sorcier et Échappée belle, Laurent Lichtenstein.
Rien que ça.
Et l'idée, voilà, de Il faut sauver les Alpes, c'est d'aller rencontrer des femmes et des hommes qui ont des solutions concrètes, locales et réplicables pour lutter contre le dérèglement climatique, lutter contre la pollution de l'air et préserver l'environnement.
Ça, c'est beau. Alors là, il y en a qui se disent, ils sont dans leur voiture ou chez eux, ils sont en train de se dire, mais ah oui, mais un de plus. Mais là, non, c'est pas un de plus parce que Nicolas, il fait ça de manière acrobatique, j'ai envie de dire, et de manière assez, assez marrante au final, puisque c'est en parapente que ça se passe. Raconte-nous.
Ouais, c'est ça l'idée. Donc, c'était d'utiliser le parapente comme un vecteur assez puissant pour déjà se déplacer sans moyens motorisés, parce qu'on se déplace avec les courants d'air chaud en parapente.
Exactement, oui, c'est vrai.
Pour vraiment avoir un autre point de vue sur nos montagnes, sur nos paysages, et montrer la beauté de ces paysages et avec un discours axé sur les solutions, vraiment d'écologie positive.
D'accord, vous voyez, parce que, donc d'accord, ça marche déjà, ça c'est sûr que visuellement, le parapente ça parle, puisque c'est comme ça qu'on s'est connus, je t'ai vu dans les airs, t'es avec un gros parapente blanc UGA, donc Université Grenoble-Alpes, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, donc ça c'est sûr que ça parle tout de suite, le parapente, à tout le monde, et ton parapente du coup, il te permet de faire quoi ? Y a-t-il des équipements dessus pour faire des mesures ou autre ?
Ouais, c'est ça. Alors le parapente, il nous permet trois choses. La première, c'est on l'a transformé en véritable laboratoire volant. C'est-à-dire qu'on embarque avec nous différents types de capteurs de qualité de l'air pour mesurer la pollution de l'air dans toutes les couches de l'atmosphère. Ça nous permet de nous déplacer verticalement et horizontalement. Et ces mesures, elles sont très intéressantes pour les scientifiques, justement, de l'Université de Grenoble, avec qui nous sommes en partenariat.
D'accord. Mais alors, tu montes jusqu'à combien, toi, avec ton parapente ? Parce que tu me dis dans les différentes couches de l'atmosphère.
Eh bien, ce qui est assez génial en parapente, c'est qu'on peut monter très haut. Par exemple, le 26 juin dernier, on a profité de l'épisode de canicule pour monter jusqu'à 5600 mètres d'altitude au-dessus du Mont Blanc, à Chamonix. Et ça nous permet vraiment d'avoir une vision et de réaliser des mesures dans toutes ces couches.
Incroyable ce que tu racontes. Mais alors du coup, mais il fait froid là-haut ou comment ça se passe ? Il y a des conditions spéciales ? C'est dangereux, pas dangereux ?
Bah, en fait, c'était vraiment des conditions exceptionnelles. En fait, le 26 juin, on a décollé de Plan-Prat, c'est à côté de Chamonix, à 2000 mètres d'altitude.
Yes.
Et avec les courants ascendants, qui étaient vraiment très forts ce jour-là, on a pu monter jusqu'à 5600 mètres d'altitude et ensuite atterrir sur le sommet du Mont Blanc à 4800 mètres.
Mais non.
Et là, c'était vraiment fou parce qu'il faisait 14 degrés en fait en température ressentie à 4800 mètres.
Et c'est pas normal ça peut-être alors si.
Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui était extrême et on a eu des records de température enregistrés par la station officielle à 50 mètres en dessous du Mont Blanc.
Ah oui, ouais, d'accord. Donc, oui. Voilà, pour celles et ceux qui doutent encore du réchauffement. Mais bon, je crois qu'ils sont pas nombreux. C'est plus rare que les licornes maintenant.
Ouais.
Et surtout, de toute façon, ils ne sont pas pris au sérieux et ils n'ont pas la parole. Donc, au cas où, ils restent confinés où ils sont. Une autre chose, Nico, du coup, parce que là, tu m'as intrigué. Comment t'as redécollé du Mont Blanc ou t'es reparti en randonnée ? T'as fait quoi ?
Eh ben, dans le Mont Blanc, en fait, on avait tout l'équipement pour descendre si on avait besoin de descendre sans voler.
Ouais.
Mais l'idée, c'était vraiment de redécoller du sommet pour rejoindre Chamonix une vingtaine de minutes après. Donc, on a réussi à redécoller du sommet. Il n'y avait aucun souci et tout s'est très bien passé.
Ah ouais, c'est assez hallucinant ce que tu racontes.
C'était vraiment fou. Et tu veux, on redécolle du Mont Blanc. Et là, après, je passe. Donc, tu passes au-dessus de la mer de glace. Tu survoles l'aiguille du Midi. Tu survoles le glacier du Géant. La face ouest des Drues aussi qui s'est effondrée. Et c'est vraiment incroyable. Par exemple, à l'aiguille du Midi, à 3800 mètres, j'ai pu faire 8 tours juste autour de la construction de l'aiguille du Midi en disant bonjour à toutes les personnes qui avaient sur la terrasse en fait, de cette aiguille du Midi.
Trop drôle ça, oui, donc vraiment un bon moment.
Ouais, c'était vraiment un souvenir incroyable avec tous les copains en plus. On retrouvait des copains au sommet du Mont Blanc, on savait même pas qu'ils étaient là et on se retrouvait ensemble là-haut.
Ah ouais, et la mer de glace alors ? Qu'en penses-tu, toi ?
Bah, c'est hallucinant, en fait, quand tu la survoles. Il y a quelques semaines aussi, j'ai décollé de l'Aiguille du Midi.
Yes.
C'était en fin d'été. Et en fait, quand tu décolles de l'Aiguille du Midi, bah, tu vois le glacier qui est très ouvert, c'est-à-dire que tu vois beaucoup de crevasses et tout ça. Mais la mer de glace ressemble à vraiment une mer de glace. Par contre, après, pour le tournage du premier épisode de Il faut sauver les Alpes, on était allé avec Liv Sansose, qui est une championne d'escalade, sur la mer de glace, donc au niveau de l'arrivée du petit train de Montanvert. Et là, en fait, on peut même plus parler de mer de glace. En fait, c'est une mer de cailloux qu'on voit.
Ah ouais, carrément.
On voit presque plus la glace.
Ah ouais, c'est triste à mourir, cette histoire.
Mm.
Mais bon, voilà, donc on va tout faire pour sauver les Alpes avec ce documentaire. Y a-t-il eu des projections déjà ou alors pas encore?
Alors, le documentaire, normalement, il sort début 2020.
D'accord.
Là, on est en train de finaliser le montage et tout ça, mais il va sortir sur Ushuaïa Télé. Et on regarde la date la plus propice pour la première projection. Ensuite, il va être diffusé plusieurs fois sur Ushuaïa Télé et dans d'autres festivals de films.
D'accord, donc une belle actualité à venir.
Ouais, c'est ça. Il y aura aussi, il sera diffusé lors de la semaine du cinéma positif au Festival de Cannes. Donc
ah oui.
On a vraiment, ça va être vraiment, on espère qu'il y aura beaucoup d'impact en fait.
Eh ben, on espère aussi. On va faire une petite pause musicale. On revient tout de suite pour parler écologie, parapente et freestyle. Vous allez pouvoir savoir pourquoi je vous dis ça. C'est juste après cette petite pause musicale sur RKS et l'émission S comme sport.